Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, 41e épisode, épisode numéro 42. Nous sommes le 7 mai 2021 et aujourd'hui, je suis accompagné de plein de gens merveilleux. Épisode numéro 42 oblige, nous avons décidé de marquer le coup. Pour l'instant, je suis seul, mais je serai rejoint de manière tout à fait asynchrone par la plupart de nos chroniqueurs. On a un peu changé de format, donc vous allez voir plein de chroniques défiler les unes après les autres. Mais avant cela, je tenais à toutes et tous vous remercier, puisque vous êtes en moyenne un peu plus de 1200 à nous écouter toutes les semaines, donc un peu plus de 50 000 depuis le début de Messages à caractère informatique. L'épisode numéro 0 avait lieu fin mai 2020. C'est globalement 40% sur toute plateforme de podcast confondue et 60% sur YouTube. Donc voilà, un grand merci et n'hésitez surtout pas à nous donner plus de feedback, à nous dire si vous avez envie de participer. Et je vous rappelle qu'on prend aussi tout ce qui est, j'allais dire crowdsourcing, mais vous voyez l'idée, vous pouvez nous faire une chronique et on sera ravis de l'intégrer à Massy, ou vous pouvez même venir participer comme nos invités habituels. Avant de laisser la parole au suivant, je voulais juste vous faire un petit top 10 des liens, en tout cas des sites les plus utilisés par les membres de Messages à caractère informatique, puisque je vous rappelle que c'est le en gros, tout le monde chez Clever fait de la veille techno et on a un channel Slack Watching Tech où on vient mettre un certain nombre de liens, notamment ceux dont on a envie de parler dans l'épisode de la semaine. Et du coup, je vais vous faire le top 10 des sites les plus représentés dans tout ce qu'on a partagé. Et le premier, sans surprise, c'est Twitter. Twitter, donc le réseau social, qui est probablement aussi à la source de la plupart des liens qu'on partage. Des fois, on met juste le tweet directement qui nous a fait prendre connaissance d'un article. Des fois, on met l'article en direct, ça dépend. Donc en premier, toutes sources confondues, c'est Twitter, suivi de GitHub et YouTube. En quatrième position, nous avons Foronix, qui est le premier un peu plus spécialisé. Foronix, c'est un site dédié aux news hardware dans le monde de Linux, ou dans le monde Unix en général, qui est très très usité par Pierre-Antoine Grégoire et moi-même. Ensuite, nous avons Medium, donc on a dû partager un certain nombre d'articles de blog sur cette plateforme. Puis, c'est le sixième site le plus partagé, le shameless plug, cleverclub.com. Ensuite arrive Ars Technica, TechCrunch, hack.mozilla.org, SoundCloud.com et Cloudflare. Donc YouTube et SoundCloud, on va pas se mentir, ils sont dans le top parce que vous savez qu'on vous partage un lien musical à la fin de chaque épisode, et donc c'est en partie pour ça qu'ils sont ici. Et je dirais que le plus spécifique après Clever, c'est Cloudflare. Je vous invite à suivre le blog Engineering de Cloudflare, qui est vraiment emblématique des bons blogs engineering d'entreprise. Nous chez Clever, on aime beaucoup suivre tout ce qui se passe chez eux. Voilà, je vous laisse avec le ou la prochaine et je vous redis merci infiniment de tous et toutes nous écouter. Au revoir. Bon, et tout de suite. Et voici maintenant le tour de Geoffroy Coupry. Bonjour Geoffroy Coupry, qui êtes-vous et de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui?
Bonjour, je suis Geoffroy Coupry, développeur chez Clever Cloud. Je travaille principalement sur des projets orientés recherche, donc Sozu, le proxy HTTP, le Function as a Service basé sur WebAssembly et Biscuit, les tokens d'autorisation qu'on a publiés il y a quelques semaines. Moi, j'aime bien les technologies un petit peu différentes, un petit peu d'avant-garde, et j'aime bien aller apprendre aux gens, leur montrer comment ça s'utilise. Donc, j'ai beaucoup présenté autour de Rust, j'ai beaucoup présenté autour de WebAssembly. Et là, pour Biscuit, il y a une techno, un langage que j'aimerais vous introduire. Donc là, on n'est pas particulièrement sur de l'avant-garde, parce que je vais vous parler de Datalog, un langage logique qui existe depuis les années 70. À cette époque-là, en fait, des gens travaillaient sur les bases de données, déjà, parce qu'il y avait d'énormes besoins, et avaient besoin de langage de requête dessus. Donc c'est SQL qui, par la suite, a gagné. Mais en fait, Datalog était un langage équivalent à SQL pour faire des requêtes sur de la donnée, pour mettre des conditions, des choses comme ça. Les langages logiques, donc il y a Datalog, il y a Prolog, mais il y a aussi d'autres choses comme CanRen, MiniCanRen. Vous trouvez des implémentations partout, Core Logic en Clojure, des choses comme ça. Ces langages-là sont un petit peu différents parce qu'on n'est pas dans les termes de dire à l'ordinateur quoi faire, une série d'instructions, de calculs ou quelque chose comme ça. On est en train de poser une question. On pose une question au système, on lui demande avec les données que tu as, avec les relations, les règles de génération de données que je te donne, réponds-moi à ma question, est-ce que telle donnée existe? Est-ce que telle condition est vraie? Ce genre de choses. Donc, dans Biscuit, ça sert principalement à générer des politiques d'autorisation. Par exemple, savoir si une requête peut passer dépendant de l'IP de source, dépendant de date d'expiration, de rôle utilisateur. C'est est-ce que tel utilisateur a les droits pour ce rôle-là? Sachant qu'en plus, il est membre de tel autre groupe, etc., etc. On peut faire des règles très très avancées là-dessus. Tout ce qu'on peut faire dans un langage comme Prolog ou Datalog, en fait, on peut le faire dans d'autres langages. C'est juste que ceux-là sont particulièrement bien faits pour avoir des conditions complexes, exécutées rapidement, et dans un langage très très concis, donc facile à auditer. Ce qui est parfait pour l'autorisation. Donc souvent pour ces langages, on vous introduit des problèmes du style Bob est le père de Alice qui est la mère de Charlie et du coup qui est grand-père de qui, etc. Ou des énigmes du style Bob habite dans la maison bleue avec un chien vert, quelle est la couleur du chameau de Charlie? Bon, bref, c'est pas hyper intéressant. Moi je préfère qu'on se concentre plutôt sur des cas d'usage qui parlent un peu plus. Donc, l'exemple le plus classique pour du web, c'est la to-do list. On va faire une petite to-do list en Datalog. Donc, pour ceux qui ont la vidéo, vous allez voir le Playground Biscuit sur lequel je suis. Donc, j'ai développé en WebAssembly et avec des web components pour exécuter du Datalog. Donc là-dedans, on va commencer à écrire. Donc, je vais créer de la donnée. Donc, le Datalog, ça travaille sur des facts. Je vais créer une entrée dans ma to-do list, entry, je lui mets un ID 0. Et on va parler par exemple de la release biscuit. Donc je rajoute un bout de texte. Et on va dire, bon bah là, on était au moment où ce n'était pas encore fait. Je rajoute un booléen pour dire false, ma to-do list, là c'est pas encore fait. OK. Je vais rajouter d'autres entries. Par exemple, il m'en faut une pour le site web. Parce qu'on a besoin d'un site web pour la release. Ah, encore. Une autre entry, donc ID 2, donc troisième entry pour un article. Ok. Bon, c'est pas fait non plus. Et une entry pour dire, bah, par exemple, on a besoin de web component, ce que j'ai fait là pour ce site-là. Voilà, ça, on va dire que c'est fait. Ça a l'air de fonctionner. Voilà. Une entry pour biscuit Rust. Et on va dire que c'est fait parce qu'en fait, les web components qu'on a ici, à chaque caractère que je suis en train d'écrire, ça prend tout le texte, ça l'envoie à l'implémentation biscuit Wasm qui est en fait faite en Rust, qui va parser le texte, exécuter le datalog et m'envoyer le résultat. Voilà. Et donc là, j'ai dans ma to-do list trois éléments qui ne sont pas faits. Il y a la release, le site web et l'article. Et il y a trois éléments qui sont déjà faits, les Web Components, Biscuit Rust et Biscuit Java. Donc là maintenant j'ai envie de me poser une question, ben en fait, qu'est-ce que j'ai à faire? Eh bien, je vais écrire une rule. Une rule, en fait, ça génère des facts, ça génère de la donnée dépendant d'un pattern qu'on trouve dans d'autres données. Donc là, par exemple, je vais dire dans todo avec les variables ID et text, je vais chercher dans ma liste de entries. Alors, dans ma liste de entries. Qui a le booléen à false qui indique que bah, c'est pas encore fait. Je vais définir entry avec ID, avec la variable texte, c'est-à-dire pour toutes les entries qui suivent la condition, et ben on va récupérer ID texte et générer un fact to do. Ce qu'on peut voir en bas, en fait, c'est que entry et to do, c'est comme des tables dans une base de données relationnelle. J'ai ma table entry où il y a la colonne avec l'ID, la colonne avec le texte, la colonne avec le statut true ou false. Et j'ai la table to-do avec ID et texte. Et en fait, ça se query de la même manière en fait que du SQL. Peut-être que j'ai envie d'aller un petit peu plus loin. Alors, ce qu'on peut voir au passage, c'est que les choses peuvent se mettre à jour directement. Si par exemple, je vais mettre true pour article à la place de false, et bien tout d'un coup, hop, dans ma to-do, article disparaît de la liste. Maintenant, peut-être que j'ai envie d'aller plus loin. Peut-être que je vais donner des dépendances entre entries dans ma to-do list. Donc, on a par exemple ben, la release, ça dépend de site web et article. Donc, on va faire créer les facs depends 0.1, depends 0.2. Donc, vous avez déjà dû faire en SQL des tables intermédiaires comme ça pour faire des relations entre différentes autres tables. Le site web dépend des web components. Alors, le site web, c'est 1 qui dépend de 3. Je fais ça par les ID. Donc, j'ai. Et les web components dépendent de Rust. Depends 3, 4. Voilà. Donc, j'ai 4 facs depends. 0, 1, 0, 2, 1, 3, 3, 4. Donc, ça commence à me faire un arbre de dépendance entre mes éléments. J'ai envie de savoir, par exemple, de quoi j'ai besoin pour faire le site. Eh bien, je vais faire une requête. Je vais appeler ça needs for site. Et donc, pareil, ID text. Donc, ça va me créer un fact needs for site qui me dit de quoi j'ai besoin pour le site web. Eh bien, je vais regarder dans mes entries. Donc, pareil, avec ID text et le statut done ou pas done. Donc, je mets ça dans une variable. Et là, on va regarder s'il y a un depends. De mon site web, donc depends ID 1 vers l'ID de l'entry que j'ai trouvé. Et donc là, ça m'envoie needs for site 3 web components, parce qu'effectivement, le site dépend des web components. Alors, si je veux faire des requêtes récursives, parce que je veux savoir vraiment de quoi j'ai besoin de tous mes ID pour le site, et ben je peux refaire une autre règle qui va me avoir à peu près la même forme. Sauf que là, au lieu d'avoir depends ID 1 et ID, je vais prendre un fact need for site. En fait, je cherche toutes les entries desquelles dépendent mes needs for site. Donc, par exemple, je vais appeler donc, dans needs for site ID dep et text dep. Et donc, je vais faire depends de ID dep et l'ID de l'entry. Et donc, en fait, je regarde tous les facts needs for site. Et pour tout cela, je prends leur ID. Je regarde s'il y a un fact depends qui a cet ID-là. Et que c'est cet ID en parent à cet endroit-là. Et du coup, prends l'ID enfant et va chercher toutes les entries qui correspondent. Et donc, du coup, pour needs for site, j'ai Biscuit Rust et Web Component. Voilà, donc là c'était quelques petites requêtes. On peut forcément aller beaucoup plus loin. On peut faire des conditions, on peut faire de l'inclusion-exclusion dans des tags. On peut aller très 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 loin. Donc là, vous pourrez voir par exemple quand on fait du biscuit que en une dizaine de lignes, on peut facilement faire un système de gestion de rôle, de groupe, avec de la délégation, des choses comme ça. Si j'ai développé tous ces web components, c'est pour qu'on puisse tester ces choses-là. C'est pensé comme quelque chose de très interactif avec lequel on va avoir envie de jouer. Parce que toutes les règles d'autorisation qu'on va avoir, on veut pouvoir les tester, on veut pouvoir faire des requêtes dessus, faire de l'audit, explorer le système. Donc ce ne soit pas juste un système qu'on vous pose comme ça sur les genoux et puis voilà, c'est comme ça que ça marche, vous l'utilisez comme ça. Vous devez pouvoir avoir des règles fines sur votre gestion d'autorisation. Voilà, donc j'espère que ça vous a intéressé sur les langages logiques. Je vous conseille d'aller regarder comment Datalog fonctionne. Honnêtement, l'implémentation naïve de Datalog comme celle de Biscuit, c'est très 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 facile à faire. On boucle sur tous les facts, on applique toutes les règles, et ça redonne des facts, et puis on reboucle dessus, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à un moment où ben, on a généré tous les facts. Voilà. Allez regarder ça, c'est rigolo. Allez regarder le blog de Clever, où on a fait deux articles sur le sujet. Et bah, à bientôt sur Biscuit et sur le podcast Clever.
Et maintenant, je vous présente Gaël Rérol. Bonjour Gaël Rérol, qui êtes-vous et de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui?
Bonjour, je m'appelle Gaël. Je suis arrivé chez Clever il y a un peu moins de 2 mois. Vous pouvez me retrouver principalement sur le support pour l'instant et un peu beaucoup aussi pas mal sur la doc. Enfin voilà. Je suis ravi de pouvoir participer à ce podcast numéro 42. Moi, je vais vous parler aujourd'hui, enfin juste là, tout de suite, d'un petit truc, de ma tablette. Et ma tablette, je m'en sers pour faire ma veille techno, parce que ma 6, c'est un peu pas mal de veille techno. Et donc, un truc formidable, enfin, c'est pour ça que je vous le partage, hein, sinon je ne vous le partagerai pas. J'utilise ma tablette pour, enfin ma tablette, ma liseuse, pour lire mes articles de veille techno avec Wallabag. Et franchement, c'est trop bien, parce que je pense qu'on est tous un peu dans le même cas, à pas trop arriver à lire tous les articles qu'on aimerait lire. Et en fait, avec cette liseuse et avec le projet Co-Reader sur GitHub, il y a la possibilité d'ajouter un petit supplément dans votre liseuse, qui n'est pas officiel, mais qui marche très bien et qui n'écrase pas non plus tout ce qu'il y a, le software qu'il y a sur votre liseuse, et qui permet de vous plugger à un Wallabag, que ce soit votre instance auto-hébergée ou... un truc de, enfin, en mode SaaS de Wallabag, et comme ça, tous les articles que vous n'avez pas le temps de lire le matin ou la journée quand vous faites votre veille, vous pouvez les envoyer sur votre Wallabag et les récupérer sur votre liseuse. Et ça, c'est vraiment bien parce que vraiment, c'est cool de pouvoir se retrouver à lire des articles tech sans être forcément devant son ordi, etc. Donc, par exemple, sur votre balcon, dans le jardin. Aux toilettes ou avant d'aller vous coucher, voilà, c'est vraiment cool et moi ça me permet vraiment de lire des articles où d'habitude en fait je les lis tout simplement pas. Donc voilà, c'était mon petit partage pour cette édition. Je pense que vous pourrez retrouver les liens dans cette édition particulière. Voilà, à une prochaine fois.
Et aujourd'hui, je suis aussi accompagné de Rémi Bardon. Bonjour Rémi Bardon, qui êtes-vous et de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui?
Bonjour, je m'appelle Rémi Bardon, je suis alternant développeur chez Clever Cloud depuis novembre et je travaille sur plein de choses différentes, j'aide un petit peu ici et là. Et récemment, j'ai aidé Julien sur la nouvelle facturation. Et en fait, il m'a fait découvrir un format que je ne connaissais pas pour les factures, qui est en fait le format qui s'appelle facture-x, facture sans E. Et en fait, c'est un format qui existe depuis quelques années, qui a été développé en collaboration franco-allemande et qui a été normé en 2017 et qui a pour but, en fait, de rajouter des métadonnées XML dans les factures PDF pour faciliter la lecture des factures par les logiciels de compta. Et donc bah là, récemment, j'ai intégré ça dans les factures de Clever. Et donc, et bien maintenant, les factures de Clever sont en accord avec ce nouveau standard. Et donc, dans les factures Clever, vous aurez une partie de XML qui permet d'automatiser la lecture des factures. Voilà, donc si vous ne connaissiez pas ce format, je vous invite à aller regarder. C'est soit ça s'appelle facture sans E-X, soit Zugferd 2.0, Zugferd. C'était un autre nom que facture X. Bref, voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder. Et sinon, je laisse la parole à mes autres collègues.
Et je suis aussi accompagné de Victor Balu. Bonjour Victor Balu, qui êtes-vous?
Salut. Eh ben, moi, je travaille chez Clever. Je m'occupe de la donnée, de la gestion de la donnée, de son traitement et de sa manipulation, de son intelligence qui tourne autour de tout ça. On essaye, quoi.
Et je suis aussi accompagné d'Emmanuel Bosquet. Bonjour, Emmanuel Bosquet. Qui êtes-vous?
Bonjour, je m'appelle Emmanuel, alias Keksoy. Je suis alternant en développement back-end à Clever Cloud depuis 2 mois. Et j'en suis très heureux.
Awesome. Alors, sujet du jour de ce 43e épisode, épisode numéro 42, vous voulez nous parler de README, si j'ai bien compris.
Oui, on voulait parler de README parce que c'est un peu ma religion, le README, et on se demandait ce qu'un README doit contenir. Moi, je disais qu'un README, pour moi, doit expliquer ce que fait un programme et avec quels autres programmes il est en lien, et Victor n'était pas d'accord, du coup... on a une discussion.
Bah, c'est vrai que la documentation, c'est toujours un gros sujet dans les entreprises. Et je trouvais que ta démarche était plutôt bien de vouloir mettre des REMI partout. Moi, je disais qu'on avait plutôt 3 niveaux de documentation dans les entreprises, qu'on avait la documentation du code, où à l'intérieur du code, on va faire des commentaires pour dire qu'est-ce que fait cette fonction, tout ça, tout ça. On va avoir l'architecture globale de notre infrastructure, de notre data, tout ça, pour voir des flux, qui communiquent, quels services communiquent avec quoi. Et on va avoir le README de projet. Et le README de projet, pour moi, il est assez indépendant. C'est quelque chose qui doit se suffire en lui-même, expliquer le projet, où est-ce qu'il intervient, dans quel contexte. Et on n'est pas obligé de c'est pas là qu'on va y raconter avec qui il parle, avec quel service.
Quand tu dis il doit suffire à lui-même, s'il est incapable de faire quoi que ce soit tout seul sans autre service, du coup, ça se passe comment?
Ça veut dire que pour moi, c'est comme une fonction, c'est comme une voiture, ça a besoin d'une route. Mais tu lui dis avec quel type de service il peut communiquer, avec quel type de protocole, par exemple, sous quel format il discute. Mais
enfin, forcément, si tu fais un service, les mentionner, ouais.
Voilà. Bah, si tu appelles ça un service, c'est que c'est censé être indépendant, sinon c'est pas du microservice.
À mon avis, ça coûte pas cher de dire bonjour, mon microservice communique avec telle API. Voilà. C'est juste, salut, voici un exemple d'API avec lequel communique le programme que t'es en train de lire, quoi. Ça permet d'éviter d'avoir à demander, eh, au fait, ce truc-là, ça marche avec quoi et pourquoi? Et l'archi, elle est où? T'as pas besoin. Parce que tout est dans le README, quoi.
Ouais, mais ça, c'est parce qu'on a des problèmes. Il y a des problèmes de doc plus globaux, je pense, quand on a à se poser ces questions-là. Parce que normalement, cette question, tu as déjà une réponse. Si tout est parfait dans un monde idéal, tu as tes réponses parce que tu as. Non, mais parce que tu as ta documentation. Mais c'est ça le problème. C'est ça qu'on doit. Vers ça qu'on doit tendre. Parce qu'imagine, je change un chouïa à l'infra. Je change le service avec qui on communique. Si je multiplie les endroits où je le référence dans la doc, eh ben, c'est des sources d'erreurs et de confusion.
Tu veux que les services soient autant découplés que les readme soient autant découplés que les services, quoi. Ce qui effectivement.
Bah, disons qu'il faut éviter de. C'est-à-dire que faut éviter de faire des documentations spécifiques dans des trucs généraux. Tu vas pas mettre une URL dans ton readme de projet, par exemple.
Ok, alors tu m'as convaincu. Mais il vaut mieux un readme un peu plus complet que pas de readme du tout, à mon avis.
Oui, moi je parlais de un monde idéal.
Moi après, je prends les deux. Hein.
En vrai, dans mon ancien job, on avait fait tout un projet de moteur de recherche de knowledge management, là où il fallait retrouver un peu de la connaissance, parce qu'il y avait une telle dispersion de la connaissance entre les différentes pratiques de chacun, que rien que ça, c'était un gros projet d'IA et de data qui était un peu insoluble, quoi. Et je pense que ça vaut le coup de l'adresser un petit peu, mais enfin de le gérer.
Si déjà il y avait un readme par programme, ce serait déjà bien, à mon avis. Et ça vaut en interne et ça vaut en externe aussi, sur GitHub, quoi. Parce que il y a plein de gens, ils ont un GitHub, ils ont des repos, tu cliques et
bah, ouais, mais attends, c'est peut-être un GitHub perso, tu vois, genre tu vas sur mon GitHub, c'est vraiment une poubelle, ce truc, hein.
Eh ben, tu vois l'image que tu donnes de toi-même, Victor, si c'est pas terrible.
Mais non, parce que je m'en sers pas comme représentation.
Oui, mais les recruteurs, peut-être.
Ah, mais justement, je mets ça justement pour qu'on arrête de venir me chercher. J'en avais marre de... des sollicitations non désirées. Du coup, je le fais passer pour un gros porc.
Mais quel branleur, quoi.
Alors, moi, c'est l'inverse. Hein. Moi, j'ai poncé mon GitHub juste pour, justement pour me faire embaucher. Et c'est entre autres.
Non, c'est bon, tu peux le détruire. Hein. C'est chez nous.
On t'a pas embauché sur ton GitHub, hein, mais bon.
Mais c'est vrai que le tien, j'avais été voir, il est hyper nickel.
Ouais, si vous voulez voir des exemples de README de qualité, allez voir le GitHub de Keksoy, parce que c'est vrai qu'ils sont méga cool, tes README.
Mais du coup, peut-être qu'on peut partager le. On peut en profiter pour discuter de l'outil que Agathe avait tweeté. Valerian avait tweeté récemment, qui suggère que c'est une sorte de générateur en ligne de README. Qui génère des fichiers Markdown pré-remplis en fonction de tes besoins. Et c'est peut-être pas un truc que c'est peut-être un peu trop bourrin pour la majorité des usages, mais c'est quand même un truc qui nous permet de récupérer rapidement un truc efficace.
Non, c'est bien pour écrire tout le boilerplate de README, c'est-à-dire je voudrais une case installation, puis paf, ça te met le hashtag, ça t'écrit le minimum. Et pour moi, ce qui est bien avec ce générateur de README, c'est que une fois que le squelette a été fait, tu peux intervertir les parties sans avoir à sélectionner du code, copier, couper, coller, etc.
Et puis surtout, ça te permet aussi de justement, moi je pense qu'un des gros problèmes de la doc, une des grosses difficultés, c'est de savoir à quelle catégorie de doc t'es en train de, sur quelle catégorie de doc t'es en train de travailler souvent. C'est très dur de dire est-ce que je suis une doc très générale ou très particulière, où est-ce que je me situe. Et on a toujours envie de trop en dire, parfois on n'en dit pas assez, parfois on fait un truc très technique alors qu'on devrait faire quelque chose de général. Enfin bref, au moins là, ça nous permet de nous cadrer, de dire attendez, dans un README j'ai besoin de mettre quoi, et en fait on regarde, parce que parfois on est fatigué, on a le nez dans le guidon, et ben on regarde un peu des champs et on se dit ah oui, ça c'est vrai que je pourrais en parler.
Ouais, c'est bien pour faire ses courses.
Ouais, voilà, exactement, c'est top. Donc voilà.
Alors, du coup, c'est quoi votre liste de courses minimum, Keksoy d'abord et Victor après?
Alors pour moi, la liste de courses minimum, c'est principalement comment le démarrer, le lancer, l'essayer, jouer avec. C'est install, get started, comme tu veux. Ouais, c'est une fois qu'on a fait git clone, qu'est-ce qu'on doit faire?
Ça, t'attends pas forcément sur la partie contribute, t'attends vraiment sur la partie à quoi ça sert et comment je m'en sers.
Voilà, moi je voudrais que quand on tombe dessus, les gens ne se posent pas la question « Ah tiens, c'est un projet Python, bien sûr, j'ai déjà Python tout installé et tout, non, qui est le minimum de rappel, il faut que tu installes Python, voici un lien au minimum, si tu veux. Tu le lances en faisant pip ceci, ou cmake cela, tu vois, si c'est du C, je sais pas, tu vois.
Mmh. » Toi Victor, excuse-moi, tu avais encore
des... Moi c'est un peu pareil, moi j'aime bien les trucs qui sont assez faciles, enfin tu vois, genre, ce que j'aime pas dans les README, c'est que souvent on nous prend pour, on s'adresse à des gens qui, en présumant qu'ils ont le même niveau que nous ou des choses comme ça. J'aime bien quand on présuppose que c'est des gens qui n'ont pas forcément d'expérience sur ce domaine d'activité. Donc il y a un quick start qui est hyper simple, avec et surtout une section un peu piège et point d'attention. Attention, ça c'est un vocabulaire qu'on utilise, mais qui est un peu différemment dans ce secteur d'activité par rapport à l'usage courant du vocabulaire qu'on a quand on est un dev classique. Tu vois. Donc du coup, quand j'utilise ce truc, je vais pas présupposer que tu sais, que tu connais la notion qu'il y a derrière et tout. Voilà. Donc et puis aussi un README qui fait pas mal de références avec des ressources externes. Si j'utilise des concepts et tout de telle bibliothèque Java, tel truc et tout. Enfin, le truc qui va limiter l'implicite ou qui va vraiment te donner des clés pour comprendre l'implicite, quoi. Et ça, je trouve que c'est le plus important, ce qui fait la différence entre son truc, ce qui te rend compréhensible, en fait, moi, qui fais pas énormément de bas niveau, ou qui fait parfois des trucs très spécifiques, en data science, tu vois, et ben je me dis à qui je vais m'adresser, est-ce que je vais discuter à des gens qui sont très très métiers et qui vont vouloir utiliser mes outils, je pars du principe qu'ils comprennent rien à ce que je fais, quoi. Parce que eux, moi je comprends rien à leurs besoins, tu vois, c'est comme ça. Et moi c'est vraiment ce que j'attends d'un René, avec éventuellement des exemples, des photos, des trucs comme ça, mais au moins que toutes les clés de compréhension du truc et puis les premiers usages sur un petit quick start soient là, quoi.
Ouais, mettre des liens pour de la lecture, pour donner du contexte, absolument.
Ok. Eh bien, écoutez, merci. C'était très, très cool comme discussion. Et puis, on vous dit à très vite sur Massy et à très vite pour
une prochaine heure.
Ciao.
Salut à vous.
C'est maintenant le tour d'Arnaud Lefebvre. Bonjour, Arnaud Lefebvre. Qui êtes-vous et de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui?
Bonjour, moi c'est Arnaud et à Clever Cloud, je suis développeur et je gère aussi une partie de l'infrastructure de Clever. Et je gère entre autres, par exemple, le cluster Ceph qu'on utilise pour fournir notre service Cellar. Donc si vous connaissez déjà le service ou si vous n'êtes pas au courant, Cellar en fait est un service de stockage objet qui donc utilise en fait la même API que Amazon S3, en tout cas qui fournit la même API qu'Amazon S3. Et ça vous permet également en fait de stocker des objets de type par exemple texte, binaire ou vidéo, même des backups par exemple, enfin ça reste du binaire du coup, directement à l'aide d'une API en fait HTTP. C'est-à-dire vous pouvez get ou put vos objets, et ensuite les objets seront stockés, répliqués dans différents DC, sur différentes machines, dans différentes bays, etc. À travers le cluster. Et donc en fait pour fournir ce service-là, on utilise une technologie qui s'appelle Ceph, qui est un projet en fait open source de stockage objet, enfin de stockage plutôt distribué, qui comprend également un module de stockage objet, donc comme je viens de parler, de stockage S3. Quoi. Il fournit aussi également par exemple du stockage de type bloc, donc du bloc storage. Par exemple, vous pouvez y mettre dedans des VM, ou en tout cas des images de VM plus précisément. Donc, par exemple, vous pouvez très bien monter en effet des VM en réseau ou autre. Il est aussi capable de faire du stockage de type file system à travers CephFS, où en fait là c'est lui qui va gérer le file system. Donc par exemple au lieu d'avoir un EXT4, vous aurez du CephFS. Donc vous pourrez en fait monter en réseau pareil ce file system, et derrière ce sera Ceph qui s'occupera de répliquer le file system à travers les différentes machines. Donc du coup, je voulais vous parler de Ceph en fait aujourd'hui parce qu'il y a plus d'un mois maintenant, donc ça c'est le 1er avril 2021. La version 16 de Ceph est sortie, donc la version pacifique, donc c'est une version majeure, qui a son lot en fait de nouvelles fonctionnalités, dont certaines que je vais vous exposer ici. Il y a tout un changelog un peu plus détaillé que vous retrouverez probablement dans les show notes. Le premier truc, c'est Ceph ADM, donc le Ceph Administration Tool, qui globalement permet en fait de gérer votre cluster. C'est-à-dire si vous souhaitez aujourd'hui déployer un cluster Ceph entre plusieurs machines, ou même en fait juste sur votre machine pour tester ou autre, c'est le moyen le plus simple de le faire. En fait, vous lui dites combien de machines est-ce que vous souhaitez, et derrière il s'occupe en fait de provisionner le tout. Donc aujourd'hui apparemment il est beaucoup plus simple à utiliser que ce qu'il en est dans les versions précédentes. Il a également gagné la possibilité de gérer la partie création de nœuds NFS, on va dire. Donc, en tout cas, du création et gestion du service NFS. C'est-à-dire, en fait, dans Ceph, vous pouvez avoir... Enfin, vous avez une gestion du NFS où, en fait, vous pouvez... donc, NFS, pardon, qui est Network File System, qui est donc, en fait, des disques durs en réseau, globalement. C'est une techno assez âgée, on va dire. Et du coup, en fait, vous pouvez directement utiliser... Enfin, provisionner des serveurs NFS au sein de Ceph. Et du coup, maintenant, cet outil vous permet de le faire exactement... comme si vous deviez manager n'importe quel autre type de nœud dans Ceph. Il vous permet également de mettre à jour très facilement le cluster, et ça par contre ça peut être un gain de temps si jamais votre cluster est assez important. Après, est-ce qu'on a envie qu'un outil le fasse de manière automatisée sur un très gros cluster? Je sais pas, mais c'est l'une des raisons pour laquelle pour l'instant je suis pas trop chaud sur l'outil, mais ça s'entend, pourquoi pas, il faudra tester. Voilà, donc c'est la première chose. Et si on continue côté expérience utilisateur, plutôt expérience des ops qui gèrent le sujet, le dashboard en fait que Ceph fournit pour avoir une vue d'ensemble du cluster, etc., a gagné quelques fonctionnalités. Vous pouvez à présent manager directement les machines qui sont sur le cluster, c'est-à-dire vous pouvez mettre une machine en maintenance, par exemple, si jamais vous devez la redémarrer, vous pouvez la mettre en maintenance le temps qu'elle redémarre, histoire que la donnée qui soit stockée dessus ne soit pas répliquée ailleurs, parce que le cluster l'a vu comme down. Ça évite du trafic inter-cluster qui est pas toujours intéressant à avoir, surtout dans un cas de down assez court. Il vous permet aussi de gérer automatiquement la synchronisation multisite de votre stockage objet, c'est-à-dire que si jamais vous avez un bucket S3 de données, vous pourrez dire à travers l'interface Ok, bah ce bucket-là réplique-le-moi sur ce cluster distant, ce qui est très pratique pour faire du, on va dire du backup off-site en fait d'un bucket. Si jamais vous avez, imaginons, une architecture multi-cloud, bah, vous avez deux clusters, un dans chaque cloud, bah, vous pouvez très bien répliquer les buckets d'un cluster vers un autre afin d'avoir une reprise d'activité en cas de pépin, quoi. Et en petite info assez marrant, j'ai trouvé, le dashboard affiche les alertes sur les MTU différentes au sein du cluster. Donc qu'est-ce qu'une MTU? C'est la Max Transmission Unit. Globalement, la taille maximale qu'un paquet peut avoir en fait sur les liens du réseau, sur un lien de réseau, pardon. Et du coup, là, si jamais cette taille maximale est différente en suivant les noms, les machines du même cluster, vous aurez une alerte en fait qui s'affichera sur le dashboard. Donc, j'ai trouvé ça assez marrant de voir quelque chose d'aussi bas niveau comme ça sur un dashboard, on va dire HTTP, donc web de aussi haut niveau, quoi. Pareil, bon, on continue encore un peu dans les trucs un peu près sympas pour la partie management. Je sais pas si vous avez connaissance de Ceph, vous avez peut-être déjà été amené à définir vos propres placement groups et le nombre de placement groups à utiliser. Globalement, en fait, dans Ceph, quand vous stockez de la donnée, vous stockez pas la donnée directement, on va dire, sur une machine. On va dire, la donnée est assignée à un placement group, donc un groupe de placement, on va l'appeler ça comme ça. Dans ce groupe de placement, en fait, il y aura plusieurs objets, il y aura plusieurs données. Et en fait, après, c'est ces placement groups-là qui sont répliqués à travers les différentes machines de stockage de Ceph. Et ces placement groups, il faut en fait en avoir un nombre. Alors, il y a quelques règles, il faut qu'il n'y en ait pas trop, il ne faut pas qu'il n'y en ait pas assez. Il faut que ce soit un multiple de 2, etc. Enfin, c'est pas toujours évident, surtout quand on a des machines qui sont pas toujours... qu'on pas les mêmes tailles de disques, etc. C'est pas toujours évident de calculer ce nombre pour avoir un nombre, on va dire, optimal pour le cluster, parce que si jamais vous en avez trop pour pas assez de machines, bah, le cluster va passer beaucoup trop de temps à gérer justement ce nombre de placements de groupe, les métadonnées, etc. Mais si vous en avez pas et que vous avez trop de machines, bah du coup vous allez peut-être pouvoir perdre de la donnée, enfin pas perdre de la donnée, mais votre redondance de données ne sera pas optimale. Parce qu'en fait, vous aurez des placements de groupe qui sont beaucoup trop gros, et du coup, bah, si jamais une machine tombe, bah, elle va emmener avec elle beaucoup de données comparé à si la donnée était plus finement répartie, quoi. Donc maintenant, en fait, vous avez un module qui s'appelle le balancer, qui est activé par défaut. Il était déjà présent dans la version 15 et la version 14, parce que nous, on l'a activé en mode warning, en mode, dis-nous quand ça va pas et on fait les manipulations. Mais maintenant, il est activé par défaut, et en fait, et donc, c'est lui qui va ajuster au fur et à mesure que vous ajoutez ou supprimez des nœuds du cluster. C'est lui qui en fait qui ajustera en fait ce nombre là et vous aurez moins à le gérer et moins à vous prendre la tête. C'était assez embêtant à faire à la main, comme je l'ai dit un peu plus tôt, et donc maintenant du coup c'est une belle addition, je trouve, en termes de fonctionnalité. En autre fonctionnalité sur la partie stockage block storage, voilà. Pardon. Le support initial du chiffrement d'une image, donc block storage, vous pouvez stocker des images de VM par exemple, de machines virtuelles, bah, du coup à présent il sera possible en fait de chiffrer le disque de cette image. C'est-à-dire que quand vous souhaiterez monter en fait cette image-là depuis un client, donc généralement un serveur, hein, par exemple, vous avez un serveur externe, vous souhaitez monter une image qui est stockée sur le cluster Ceph, bah, vous allez peut-être utiliser QEMU, je sais pas comment on dit exactement, mais enfin peut-être que vous allez utiliser QEMU, et globalement vous allez en fait lui dire bah va chercher l'image qui se trouve sur ce cluster là-bas. Et maintenant, en fait, il vous sera possible de définir une clé de déchiffrement du disque afin de déchiffrer tout simplement le disque de l'image et en fait de stocker une image chiffrée au sein du cluster Ceph. Donc ça, c'est vraiment cool. Pour l'instant, c'est pas très avancé pour plusieurs images a priori de ce que j'ai vu, ou alors c'est une image, mais c'est une seule clé par image. Et en fait, dans le box storage, vous avez la notion apparemment de cloner des images pour en offrir. Vous avez une image de base et ensuite vous souhaitez la cloner pour chaque utilisateur qui souhaite l'utiliser. Là, vous aurez la même clé, donc c'est pas top. Mais a priori, plus tard, ce sera possible de cloner une image et d'avoir une clé différente par clone d'image, etc. Pour offrir une clé en fait par client, imaginons, etc. Donc c'est plutôt cool. Donc à voir où ce que ça nous mènera. Peut-être que ce sera dans la version 17 ou où ce sera un peu plus rempli comme fonctionnalité, on va dire. Mais d'ici là, en tout cas, c'est une belle addition. Et moi, je suis, comme on va commencer nous à utiliser par exemple la partie block storage, je suis vraiment assez intéressé. Et en dernier point que je voulais soulever, j'ai trouvé ça vraiment marrant, je ne savais pas que S3, donc AWS S3 le proposait déjà, mais donc la partie stockage objet, donc S3 de Ceph, a reçu une nouvelle fonctionnalité qui est le S3 Select. Apparemment, il vous est possible de requêter des objets avec des requêtes SQL. Alors, je m'explique. J'ai pas regardé exactement comment ça se mettait en place, mais dans leur sur leur site, ils donnent un exemple assez simple. Si jamais vous stockez un fichier CSV de plusieurs gigas, si jamais vous voulez requêter seulement quelques colonnes ou autres, c'est très compliqué de le faire en mode, c'est très compliqué, ça prend du temps, quoi. Il faut télécharger tout le fichier et ensuite on peut faire leur requêtage. Et maintenant, apparemment, il sera possible de directement requêter dans le fichier à travers une requête SQL pour récupérer seulement la donnée qui vous intéresse et non pas avoir à tout télécharger. Donc, par exemple, vous aurez tout simplement un select les différents champs from le chemin vers l'objet S3. Et avec votre condition where, après, where, par exemple, age supérieur à 30 ou inférieur à 65 si vous stockez, par exemple, des personnes ou autre. Et cette requête sera exécutée directement, en fait, sur le nœud, a priori, qui stocke l'objet, sans que toute la donnée, donc, sans que les plusieurs gigas de l'objet soient retournés. Donc, j'ai trouvé ça assez intéressant. Je sais pas trop dans quel cadre, parce que là, dans du CSV, ça prend du sens, mais est-ce qu'il y a d'autres cas d'utilisation? Je sais pas encore, j'ai pas encore regardé. Faudrait que je m'intéresse à ça, mais voilà, peut-être que ce sera une fonctionnalité qui arrivera chez nous d'ici quelques mois. Voilà, globalement, après, il y a pas mal d'autres choses dans le changelog, c'était les différentes fonctionnalités que j'ai trouvées les plus intéressantes, je vous laisse aller regarder le reste. C'est tout pour moi, globalement, je vais vous laisser en fait en compagnie de mon prochain ou ma prochaine collaboratrice, et voilà, bonne journée.
Et je suis aussi accompagné de Marc-Antoine Perrenou. Bonjour Marc-Antoine Perrenou, qui êtes-vous?
Bonjour, moi ça fait depuis la création de Clever à peu près que je suis chez Clever, vu que je fais partie des co-créateurs. Je fais beaucoup de code legacy, enfin je faisais dans le passé, maintenant j'essaye de le remplacer. Je touche un peu à tout ce qui est système ce qui fait tourner la plateforme un peu au global, tout ce qu'on voit pas et qui fait que ça tourne.
Qui est le SRE de Londres.
C'est ça.
Et comme Julien Durillon, j'avais prénommé Julien Durillon le pourvoyeur de Legacy, et tu dois être l'autre pourvoyeur de Legacy de Clever Cloud.
C'est ça, je suis le catalyseur de Legacy.
ça veut dire job done, faire du Legacy.
C'est ça.
All right. Et de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui?
À mon temps perdu, je fais pas mal d'open source, que ce soit des projets perso ou de la contribution à un peu tout ce qui me passe sous la main. Et notamment, en 2010, on va revenir un peu dans le passé, quand Clever Cloud n'existait même pas encore.
Avant le mois.
Quand je codais, je m'étais dit, tiens, ça serait vachement cool de pouvoir sauvegarder ce que j'ai copié il y a quelques temps pour pouvoir le réutiliser à un autre endroit du code ou ce genre de truc, pour déplacer des bouts de code, etc. Et j'étais tombé sur un outil qui s'appelait Parcelite à l'époque, qui était plutôt bien fait, qui faisait la job, qui était très minimaliste, mais bon, ça marchait. Et à l'époque, j'étais pas mal dans j'essaye d'avoir ce qui se fait de toutes les dernières releases sur un peu toutes les stacks bas niveau de mon système, etc. Et c'est le moment où il y a GTK3 qui avait commencé à sortir. Parcelite était en GTK2 et était plus maintenu depuis 9 mois environ quand je m'y étais mis. Du coup, je me suis dit, je vais le forquer, je vais le porter sur GTK3, ça va être rigolo. Je l'ai forqué, je l'ai porté sur GTK3. Et puis, quelques mois plus tard, genre 3-4 mois après, lors d'une journée passionnante à la fac d'informatique, je me suis dit, tiens, et si je refaisais un truc from scratch, un peu plus complet et qui me correspondent, quoi, en fait, parce que, l'idée, à la base, c'était surtout de répondre à mon propre besoin. Il s'avère qu'à l'époque, il y avait Genome qui sortait aussi leur nouveau langage qui s'appelait Vala, qui avait l'air plutôt sympa, et qui avait des trucs super magiques pour faire du dbus, où tu faisais un peu des sortes d'annotations à la C#. La syntaxe de Vala est très, très inspirée de C#. Et tout était magique. derrière. Je me suis dit, bah, tiens, je vais tester ça au passage. Et du coup, j'ai commencé à faire mon propre gestionnaire d'historique de copier-coller, en fait, que j'appelais GPaste, pour m'amuser un peu avec bah, comment ça fonctionne derrière et puis comment ça fonctionne Vala aussi. Et puis un moment, quelques mois après, je me suis aperçu que il y avait des gens qui avaient commencé à le packager pour Fedora, pour Ubuntu, pour Debian, pour machin. Et je me suis dit, ah, bon, on va peut-être faire que je fasse un petit truc un peu plus sérieux du coup autour de ça. Et puis,
il semblerait qu'il y ait un créneau.
C'est ça, c'est... Depuis maintenant, il est packagé pour à peu près toutes les grosses distros. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu, que j'ai pas vu une distro pour laquelle ce n'était pas packagé. Il n'y a plus du tout de Vala dedans, par contre, parce que au bout d'un moment, j'en avais marre de Vala et je voulais quelque chose de plus flexible. À l'époque, du coup, because Legacy Reasons, parce que je suis un catalyseur de Legacy, rappelons-le, c'est donc du C. Voilà. Alors, pourquoi je voulais parler de ça? C'est, je crois que c'est la première fois où je participe à Maki sans que ça soit pour parler du noyau. Du coup, je me suis dit, quitte à pas parler du noyau, autant faire un truc un peu plus orienté end-user, desktop et tout ça, où pour le coup, on voit ce que je fais. Et du coup, il y a une question en fait récurrente, notamment sur des gens qui auront pu utiliser des outils similaires sur Windows et Mac et qui arrivent sur Linux et qui se demandent hey, « Eh, mais pourquoi il n'y a pas cette feature-là » Il y a notamment une feature qui revient souvent, c'est bah, pourquoi est-ce que je pourrais pas faire un raccourci pour que ça colle un élément de l'historique directement là où est mon curseur. Et bah, c'est tout bêtement parce que sur Linux, c'est pas possible en fait. C'est-à-dire qu'il y a moyen de bidouiller pour faire un truc...
Linux X ou Wayland?
Aucun des deux.
Ouais.
Et justement, en fait, alors, sur Wayland, qui est censé être le nouveau truc qui va tout révolutionner et tout, que j'utilise d'ailleurs depuis un moment, mais bah, c'est encore pire que sous X11, en fait, à ce niveau-là, parce que Wayland est très axé sécurité, et du coup, en fait, pour avoir les événements de copier-coller, il faut avoir le focus. Et bizarrement, t'as pas envie que ça soit ton gestionnaire de copier-coller qui a le focus tout le temps, t'as envie que ça soit la fenêtre que t'es en train d'utiliser. Du coup, bah, c'est pas compatible, et il faut que le gestionnaire de bureau collabore, en fait, pour que ça soit possible. Sauf que pour l'instant, il n'y a rien de standard qui a été fait. Il y en a qui ont bidouillé leur truc dans leur coin, genre Sway, il y a un truc, je crois, pour ça, mais... c'est pas standard et c'est implémenté que par Sway, en gros. Mmh. Et du coup, sur Genome, sur KDE et tout ça, pour l'instant, il n'y a que dalle à ce niveau-là. Donc, pour l'instant, GPaste to Wayland, c'est je force le backend X11 et en fait, le gestionnaire de bureau de Genome a une synchronisation entre le presse-papier de X11 et le presse-papier de Wayland et j'abuse de ça pour traquer en passant par X. Mmh. Mais voilà. Et du coup... pour ce qui est de coller automatiquement quelque chose là où est le curseur, le seul moyen de faire, bah, sous Wayland, c'est pas possible. Tu peux passer que dans une des mêmes, enfin une autre fenêtre du même logiciel. Donc voilà. Pareil, il faudrait une collaboration du gestionnaire de fenêtres, mais j'ai un gros doute sur le fait qu'ils implémentent ça. Mmh. Et le moyen sous X, c'est avec une lib qui porte bien son nom, qui s'appelle libxtst. Donc c'est une lib pour faire des tests. C'est conçu pour faire des tests et pas pour faire de la prod. Et en fait, la manière dont ça fonctionne, c'est que libxtst va pouvoir simuler des appuis sur des touches du clavier. Sauf que, au moment où tu réclames d'appuyer sur une touche du clavier, c'est toi qui as le focus, c'est pas la fenêtre cible. Donc déjà, il faut gérer un timeout pour dire tu l'envoies dans 200 millisecondes, par exemple, en espérant que dans 200 millisecondes, tu as réussi à lâcher le focus et que ça soit la bonne fenêtre qu'a le focus. Donc déjà, le timeout, c'est pas le même d'une machine à l'autre, donc voilà la fiabilité. Et, en plus, il n'y a aucun standard pour faire un coller sur Linux. Il y a des applications, c'est CTRL-V, via le presse-papier. Il y a des applications, c'est Shift-Insert, via la copie primaire. il y en a qui supportent les deux, il y en a qui supportent mais avec un autre raccourci. Et ça, il faudrait le deviner avant, parce que ouais. on fait pas une instruction collée. On simule des touches du clavier. Du coup, c'est pas portable d'une application à l'autre. Du coup, à un moment, je l'avais intégré avec le... je sais plus si c'est Alt-Insert ou Shift-Insert pour la copie primaire, qui est censé être le truc le plus portable. Mais entre le timeout, qui est variable selon la charge de la machine et tout ça, le fait que d'une appli à l'autre, ça peut ne pas être supporté, il y avait plus de cas où ça marchait pas que de cas où ça marchait finalement. Du coup, j'ai juste viré la feature. Et régulièrement, j'ai des gens « Eh, ça serait super cool de pouvoir faire ça !» On est d'accord. Voilà. Donc, c'était pour la petite anecdote sur pourquoi est-ce qu'il y a des features qu'on peut pas faire sur Linux aussi, malheureusement. On peut, mais c'est pas fiable, quoi. Donc, autant pas les faire.
Ouais, j'avais regardé comment marchait Espanso, c'est le text expander, et pareil, c'est qu'on type que X, et ça utilise un truc qui s'appelle XDoTools, et c'est littéralement un truc de debug, comme tu disais, de test pour envoyer voilà. Des events. Quoi.
Tu dois utiliser la libxtst derrière, probablement.
Probablement.
Sachant que, pour le coup, Espanso a l'avantage par rapport à ça qu'il sait déjà sur quelle touche faut appuyer, donc ça élimine ouais. Un des deux problèmes, mais voilà.
Joie et bonheur. Eh bien, merci Marc-Antoine Perrenou.
Eh bien, à bientôt pour de nouvelles aventures dans le noyau Linux.
Yay. Et voici maintenant le tour de Aurélien Hébert. Bonjour Aurélien Hébert, qui êtes-vous et de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui?
Bonjour à tous. Vous ne me connaissez peut-être pas encore. Je suis Aurélien Hébert et j'ai rejoint les équipes de Clever Cloud il y a maintenant 3 mois. Je suis développeur, basé dans la région brestoise, donc tout au bout de la pointe ouest de la Bretagne. Auparavant, je travaillais pour les équipes qui ont édité la base de données Warp 10. Donc Warp 10, c'est une base de données série temporelle qui permet de faire du stockage et de l'analyse. J'avais ensuite rejoint les équipes de Matrix, donc d'OVH, qui sont les équipes qui géraient le monitoring pour l'ensemble des applications et des serveurs d'OVH, basés sur cette même technologie Warp 10. Donc à OVH, j'ai notamment travaillé sur plusieurs outils qui sont open source, qui permettent par exemple de parser différents protocoles open source de time series, donc du Influx, du Prometheus, pour Warp 10. Donc maintenant, il y a environ 3 mois, j'ai rejoint Clever Cloud. Il y a quelques jours, j'ai écrit un petit blog post pour vous expliquer comment déployer Superset sur Clever. Alors qu'est-ce que c'est Superset? C'est un petit outil, si vous connaissez Metabase, c'est un petit peu similaire, qui permet de faire notamment des requêtes sur des bases de données et de pouvoir les présenter via des graphes ou d'autres façons de les visualiser dans des dashboards. Donc vous allez pouvoir construire vos dashboards sur des données qui viennent de vos Postgre ou de MySQL. Donc ça, c'est une fois que vous avez déployé un superset, et donc il y a un petit article sur le blog sur comment on déploie ça dans Clever. Donc je travaille aussi en tant que développeur, et à Clever, j'ai donc appris un langage que je ne connaissais pas, qui est le Scala. Donc c'est quelque chose d'assez nouveau pour moi. Je découvre notamment le modèle acteur qui permet de faire du multithreading en Scala. Donc c'est-à-dire qu'on va venir déclarer plusieurs acteurs et qu'on va venir organiser notre code en fonction de bouts métiers qui soient exécutés de façon différente et un peu asynchrone. Et notamment les futurs qui sont justement l'exécution asynchrone du code. C'est-à-dire qu'on va envoyer une instruction et on va avoir des callbacks qui vont être appelés a posteriori. Et notamment la mauvaise idée de vouloir faire des futurs de futurs, puisque les futurs, on ne sait pas quand est-ce qu'on va avoir les résultats, on n'a aucune garantie de l'ordre, donc de pouvoir gérer comment est-ce qu'on fait ça différemment ou comment est-ce qu'on gère mieux ça. Donc voilà pour moi, je vais continuer les aventures avec Clever, et puis j'espère vous revoir bientôt, peut-être dans un autre épisode. Au revoir.
Je suis aussi accompagné de Alexandre Duval. Bonjour Alexandre Duval, qui êtes-vous ?
Bonjour, moi je suis dev chez Clever, je m'occupe des systèmes distribués, de la stack de log, des migrations d'add-on, ce genre de choses.
Ce genre de choses, et je suis aussi accompagné d'Alexandre Berthaud. Bonjour Alexandre Berthaud, qui êtes-vous?
Et bonjour, je suis dev chez Clever également, et je travaille sur plein de choses variées, et en ce moment je travaille même sur la partie facturation. Ça varie beaucoup.
Effectivement. Alors, qu'est-ce qui varie beaucoup? J'ai une transition toute trouvée pour vous dire que les SQL, en fonction des bases de données, ont tendance à varier pas mal, mais que, apparemment, il y a un outil qui est venu nous sauver et qui s'appelle USQL et dont vous voulez parler aujourd'hui tous les deux.
Ouais, alors ça sauve pas la vie niveau SQL en soi, mais ça sauve la vie niveau la façon de s'habituer à un outil, parce que les CLI de Postgres et MySQL, entre autres, hein, c'est pas les seuls, sont très différentes. Il y a plusieurs commandes spécifiques, genre pour lister les tables, etc., qui sont très spécifiques l'une à l'autre. Et quand on passe d'un outil à l'autre, des fois, c'est dommage qu'on ait un truc qu'on veut faire, qu'on sait très bien faire avec un outil, et l'autre, on ne sait pas, alors que c'est sensiblement la même chose. Et du coup, USQL, c'est une CLI universelle, d'où le U, qui sait parler à plein de DB différentes, SQL, mais pas que, et toujours, du coup, avec quelque chose de cohérent.
Ouais. Voilà. Et du coup, on peut faire plein de choses. Par exemple, on peut faire un anti-slash-d sur SQLite.
Ouais, par exemple.
Anti-slash-d, coup, est-ce que ça marche ça liste quoi, déjà?
Anti-slash-d, donc c'est super cool, parce que cet outil-là est basé sur PSQL, c'est vraiment inspiré par l'outil PSQL, et donc anti-slash-d sur PSQL, et donc là, du coup, dans USQL, pour n'importe quel DB, ça liste les tables.
Le schéma des tables, ouais. Ah oui, sur enfin, la DB,
ça, tout seul, ça, quand tu précises rien, ça liste toutes les tables, et quand tu précises une table, ça va lister toutes les colonnes du coup de la table,
voilà.
Les index, etc.
Et du coup, de base, en conséquence, on peut en avoir un affichage clean en fait sur SQLite. Par exemple, si on fait un select, par défaut sur SQLite, si on ne passe pas des commandes au départ, et ben, on a un affichage un peu tout crado. Et du coup, là, on a un split par colonne, on a les noms des colonnes, on a toutes ces choses-là qui sont bien pratiques.
Ouais, mais genre tu fais... Et d'ailleurs, ce qui est un autre truc trop bien, c'est que la configuration du coup de USQL est compatible avec PSQL, et donc certains trucs qui sont dans la série PSQL sont configurables là aussi. Et donc par exemple, on a le anti-slash x auto qui permet de changer l'affichage en fonction de la quantité de données affichées, c'est-à-dire que s'il y a trop de colonnes par rapport à la largeur de votre terminal, ça va afficher groupe par groupe en fait, et donc, du coup on va avoir les colonnes en mode ligne. Et là, ce sera bien tout propre et tout, plutôt que d'avoir le truc qui part à la ligne sans prévenir en plein milieu. Quoi.
Ça permet notamment d'éviter des anti-slash G majuscules sous MySQL quand ça ne fit pas
bien, ouais, voilà.
Ce genre de choses.
Là, c'est complètement magique.
Et d'ailleurs, pour revenir sur MySQL, on peut passer une URI à Uscale MySQL.
Yes.
Ça marche.
Ouais, on peut juste pratique. Faire USQL et puis l'URI, donc en mode MySQL 2.//, utilisateur, password, at, lot, etc. Mais ça marche. Et donc pour n'importe quel DB qui a une URI sous ce format-là, a priori, il y a toute cette capacité. Enfin, cette formulation, on va dire, qui est commune, on va dire, qui s'utilise facilement, bah là, ça marche à chaque fois.
Est-ce qu'on a, comme sur PG, on peut avoir un PG history par DB?
Ouais.
Est-ce qu'on l'a dans Uscale par DB aussi?
Là, j'ai pas vérifié, mais a priori, la conf est compatible. Moi, j'ai mis ma conf, il m'a pas...
Ah ouais,
taper dessus, donc a priori c'est ok. J'ai pas vérifié, mais je pense que c'est ok.
Ok. J'ai aussi vu qu'on pouvait switcher de DB sans sortir. Par exemple, si t'es connecté avec Uscale sur une USQL, pardon, sur une DB SQL Lite, et tu peux faire un anti-slash C une autre URI, et tu vas arriver dessus directement.
Ouais, ça marche aussi.
Et
ouais.
Du coup,
ouais,
parce
que tu peux très bien le lancer de base sans préciser la DB sur laquelle tu te connectes, et puis te connecter après.
Oui, c'est vrai.
Hein, n'importe quoi.
Et du coup, à ce moment-là, justement, quand tu es dans le shell USQL sans être connecté à une DB, ou même en étant connecté à une DB d'ailleurs, tu peux définir des variables que tu peux après réutiliser un peu partout. Et du coup, quand tu vas te connecter à une DB, puis à une autre, etc.,
ah.
Et ben, tu importes tout ton contexte. Et
ah, du trop coup, bien. Tu peux récupérer des données d'une DB, te connecter à une autre et...
les mettre dans des variables,
ça connecter
à une autre. Ouais. Et du coup, tu as aussi des backticks. Donc, par exemple, tu peux faire anti-slash set, c'est comme ça qu'on définit une variable. La variable foo, par exemple, égale backtick date backtick. Et du coup, ça va prendre la date actuelle. Par exemple, tu as plein de mots-clés comme ça qui peuvent être utiles.
Ah, okay.
Et du coup, bah, tu peux te balader des variables comme ça et les utiliser sans devoir les retaper à chaque fois ou les copier-coller,
cool.
Comme on fait habituellement. Du coup, tu as de l'interpolation avec les backticks, quoi. Est-ce que ça convient? Je crois que ça s'appelle de l'interpolation. Tous les mots comme ça, je sais
ça
jamais.
Ça se dit.
Ça se dit. On peut aussi avoir un fichier USQL pass, comme avec les PG pass.
Ouais, pour mettre les creds dedans.
Ouais, et du coup, t'as pas besoin de te taper tous les creds à chaque fois, sous au motif que tu as les creds quand même sur ton laptop. Enfin, voilà.
Ouais, après, chacun fait comme il veut, quoi.
Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ouais, tu as un USQL RC aussi, tu peux mettre des petits messages subliminaux. Moi, j'aime bien faire
Salut, bah, notamment, pote. Du coup, tu peux définir là-dedans, donc, ce que je disais, par exemple, l'anti-slash X-auto pour l'affichage, là, et tu peux aussi définir la façon dont doit être affichée la valeur null, en fait. Par défaut, en fait, dans PSQL, un null, c'est affiché juste vide, et tu peux pas faire la différence entre une chaîne vide et un null. Mmh. Et dans MySQL, je sais pas trop dire, mais je crois que c'est pareil. Et bah, là, tu peux définir, du coup, genre, moi, j'ai mixé entre crochet null en majuscule, comme ça, je sais que c'est un null, quoi.
Ok.
Je vais pas le confondre avec une valeur. Sauf si je mets la string crochet null quelque part, c'est peu probable.
Oui. Ouais. Ok. Ah, je connaissais pas. Et t'as aussi tout du tooling autour de CSV, c'est-à-dire que tu peux directement, en gros, tu vas loader ton CSV dans USQL et puis faire des queries directement du coup, dessus. Ouais. Ouais. Okay, c'est cool. Et même injecter tes résultats de cette query-là dans une DB, par exemple, ou autre.
En fait, t'as un driver CSV, quoi, entre guillemets.
Ouais, c'est ça, en fait, c'est ça. Et t'as, mais des drivers, il y en a au moins une cinquantaine.
Ouais, je suis en train de regarder la liste, c'est impressionnant, ouais. Alors, il y a Presto et Trino.
Il y en a vraiment beaucoup.
Il y a Snowflake, il y a IBM NetEDZA, je connais pas, il y a Spanner, BigQuery, il y a des SaaS, en fait, il y a ClickHouse, Couchbase. Enfin, tu sens qu'il n'y a pas que du SQL tradi, il y a des SaaS et,
ouais.
Et des trucs qui sont pas que SQL, quoi. Je vois qu'il y a Cassandra.
Ouais, mais du coup, ouais, ça t'apporte tout le tooling générique, c'est beaucoup trop bien, quoi. Parce que...
Et c'est écrit en Go.
Et c'est écrit en Go, ouais.
Et je trouve pas d'histoire de prononciation, je suis très déçu.
Est-ce que tu es censé prononcer YouSQL ou...
Ouais.
Ouais, c'est voilà. Comme ça qu'on dit.
Déjà, tout le monde n'est pas d'accord pour SQL.
Ouais, je dirais YouSQL, mais bon, après...
Ouais.
Je dis USQL.
Ça marche bien aussi.
USQL.
Uscle, c'est pas mal, uscle.
Uscle, c'est stylé.
Je sais pas si ça marchera très bien dans les pays anglo-saxons, par contre.
Uscle.
Ok, bah écoutez, merci, c'était bien cool. Donc, merci d'avoir participé à ce magnifique épisode, 43e épisode, épisode numéro 42. Et du coup, on vous dit à très bientôt.
À très bientôt.
Ciao. Et je suis accompagné de gens non moins merveilleux tels que Hubert Sablonnière. Bonjour Hubert Sablonnière, qui êtes-vous ?
Bonjour, je suis Hubert Sablonnière et chez Clever Cloud, je m'occupe de tout ce qui est un peu UI, donc la console web, les composants graphiques, la ligne de commande, etc.
Et je suis aussi accompagné de Mathieu Degand. Bonjour Mathieu Degand, qui êtes-vous ?
Bonjour Laurent, je m'appelle Mathieu Degand, je suis étudiant en master d'ingénierie et innovation en informatique à Lille. Et à part ça, je bosse chez Clever sur tout ce qui est aussi composants web et UI.
Right, et de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui, tous les deux ?
Donc aujourd'hui, on va vous parler de Flexbox et de Gap, puisque dans l'épisode 41, on a parlé de la nouvelle version de Safari. Du coup, on aimerait revenir sur cette fonctionnalité qu'ils ont enfin implémentée. Donc c'est une fonctionnalité qui est d'abord arrivée avec les grilles, donc ça permet déjà d'ajouter l'espace entre les lignes et ou les colonnes, et ensuite ça a été proposé pour les Flexbox. Safari, comme d'hab, ils ont mis un peu de temps à l'implémenter puisque ça arrive maintenant, alors que Firefox, on l'a depuis la version 63, donc ça remonte à fin 2018, et c'est arrivé avec la version 84 en mi-2020 pour Chrome. De ce fait-là, en fait, on a vraiment des cas, on a besoin de Flexbox et on n'a pas envie d'utiliser des grilles, et en fait, pour autant, on aimerait bien avoir des espaces entre les items qu'on met. Un des cas d'usage, ce serait quand on veut par exemple afficher dans un composant des labels ou des tags. Et en fait, ça pose plusieurs problèmes. C'est que quand on utilise une Flexbox, on ne sait pas forcément combien on en a. Ils n'ont pas tous la même largeur. Et on ne sait pas aussi dans quelle largeur on va les afficher par rapport au mode responsive. C'est pour ça que dans ce cas-là, on va du coup utiliser des Flexbox et on va wrapper pour que les items passent à la ligne et que la propriété gap va aussi nous aider à du coup mettre des espaces sur ces items.
Ouais, parce qu'en fait, avant qu'on ait de gap sur ces Flexbox, c'était ultra chiant de mettre des espaces autour d'items qu'on a dans des Flexbox et qu'on wrappe, que ce soit l'espace à gauche, à droite et en haut, en bas. On va dire que le truc assez naïf, c'était de dire on va mettre une marge à droite et une marge en bas de chaque item. Du coup, ça va pousser les autres et ça va mettre un espace tout autour. Le problème, c'est que quand on fait ça, on se retrouve avec un espace à droite et en bas dans notre conteneur, en fait. C'est moche. Et du coup, le bon gros hack des familles, c'est non pas, par exemple, de mettre un espace de 1 rem entre, à droite de chaque item, mais de mettre un espace d'un demi-rem autour de chaque item, ce qui fait que quand ils sont les uns à côté des autres, bah, il y a un demi-rem et un demi-rem, et ils sont bien espacés de 1 rem. Quand on fait ça, on a à peu près ce qu'on veut, sauf qu'on se retrouve avec un demi-rem autour de l'ensemble de nos composants, donc dans le conteneur. Et c'est là que vient le hack dégueulasse, c'est que pour annuler ce demi-rem qui est tout autour, on va mettre une marge négative d'un demi-rem dans le conteneur, et quand on a fait ça, bah, y a le conteneur qui dépasse un peu, donc il va falloir un wrapper avec un overflow hidden. Bref, vous imaginez bien que c'est un bon gros hack. Nous, on en a fait un composant dans notre librairie de composants, ce qui fait qu'on a caché ce hack sous le capot, parce qu'on a besoin que ça fonctionne sur Safari. Et donc, je ne sais plus, on l'a implémenté il y a une petite année, et on cache la complexité avec ça, et on arrive à avoir des items qui sont les uns à côté des autres, avec un espace, avec ce bon gros hack.
Oui, mais Hubert, en fin de compte, il y avait plus simple, on aurait juste pu utiliser cette fameuse propriété gap.
Bah oui.
Donc franchement, si vous en avez la possibilité, que vous développez pour des browsers modernes, utilisez-le. Et comme on a dit, pour notre part, dans nos composants, on va quand même attendre que la dernière version de Safari, donc 14.1, ait un nombre d'utilisateurs plus élevé avant de l'utiliser.
Voilà.
Voilà. Eh bien, écoutez, merci à tous les deux. C'est sympa d'avoir joué le jeu et d'être venu. Et on vous dit à très vite. Hubert, t'es un habitué. Mathieu, on espère te voir aussi rapidement dans les prochains épisodes de Messages à caractère informatique. À bientôt. Ciao.
À bientôt.
À bientôt. Ciao, ciao.
Et je suis aussi accompagné de Julien Durillon. Bonjour, Julien Durillon. Qui êtes-vous et de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui?
Bonjour, Laurent Dauguin. Je suis Julien Durillon. Je suis, qu'est-ce qu'on a dit, pourvoyeur de Legacy.
Absolument.
Chez Clever Cloud. De moins en moins. Maintenant, en ce moment, je fais la nouvelle Legacy et c'est pas pour me déplaire. Voilà, la Legacy de dans 10 ans, quoi. Voilà, et pour ce 43e épisode, si je dis pas de bêtises,
tout à fait.
Voilà, je vais parler un peu d'un truc qui s'appelle Test Containers. Voilà, les Test Containers.
Merci. Voilà.
Voilà, c'est pour tester les containers. Et non, ce n'est pas pour tester des containers, comme son nom pourrait l'indiquer. Mais en gros, ouais, il y a quelques mois, j'ai eu l'occasion, comme ce que je viens de dire, de commencer un nouveau projet. Voilà, où on fait du Scala avec du AK, du AK-HTTP. Et dedans, on parle avec du Pulsar, on parle à du PostgreSQL, on fait des locks et tout avec Zookeeper. Et du coup, nouveau framework, nouvelle archi un petit peu que je découvre. Voilà, besoin de tester aussi qu'on ne va pas casser l'existant, parce que le projet va remplacer de la legacy que je vais enfin pouvoir dégager pour ouais. Amener de la nouvelle legacy. Voilà, bon, il y a des choses qu'on a prévues de casser, de changer de fonctionnement, mais on a quand même envie de tester qu'on ne va rien casser de spécial. Et je me suis heurté à un problème pour mes tests, c'est que on peut écrire des tests unitaires, donc j'en ai fait quelques-uns, je vérifie que cette fonction-là, quand je lui envoie cette donnée-là, je peux vérifier certains invariants entre la sortie de la fonction et l'entrée de la fonction. Bon, c'est cool. Le problème, c'est qu'en fait, moi, il y a une énorme partie de mon projet où j'ai besoin quand même de m'assurer que quand j'envoie un message dans un pulsar, il y a bien un autre acteur qui a été lancé qui est capable de récupérer que quelque chose s'est passé, que quelqu'un au moins a récupéré le message en pulsar et qu'il y a, in fine, il y a par exemple un objet dans la DB qui a été créé.
Ça vaut peut-être le coup que tu expliques vite fait à un système acteur comment ça marche, ça envoie des courriers à des gens, quoi. Enfin, c'est...
Ouais, c'est ça. Oui, AK, c'est une lib, un framework même, si j'ose dire, qui vous permet de faire des acteurs. Donc les acteurs, c'est ce qu'auraient dû être les objets. voilà. si les objets avaient été implémentés correctement depuis le début. Voilà. Là, je viens de faire mon Geoffroy Coupry qui ramène son small talk à chaque fois qu'on parle d'objets et d'acteurs. Mais effectivement, à la base, en fait, les objets, c'était pensé comme ce qu'on appelle maintenant des acteurs, c'est-à-dire qu'on va lancer, en gros, des threads, des process les uns à côté des autres, potentiellement dans le même projet, mais du coup, ils peuvent être aussi séparés à travers le réseau, etc. Et tous ces acteurs, tous ces process vont discuter les uns avec les autres en s'envoyant des messages. Et donc, très souvent, un message, voilà, un acteur va récupérer un message, faire peut-être un peu de traitement dessus, et puis ensuite le rerouter vers un autre acteur, soit répondre au premier, ce qui peut arriver dans le cas où on fait une API, à un moment on va demander une réponse pour voir la donnée au client. Mais parfois, ça peut être, on récupère un message depuis un broker du genre Pulsar, et on va traiter l'action, et puis peut-être envoyer le résultat de l'action à un autre acteur qui va se charger d'enregistrer le résultat, peut-être dans la DB, ou voilà, différentes choses. Donc à partir du moment où c'est plein de choses qui s'envoient des messages, et que parfois, on a envie de forcer le passage des messages dans un broker, parce que l'avantage avec Pulsar, c'est que après on peut essayer de récupérer et de redépiler tous les messages qu'on a envoyés, si on a loupé des choses, pour pouvoir recréer un état, par exemple, d'une base de données, etc. Et donc, voilà, parfois, on a envie de quand même tester que tout ce truc-là fonctionne. Et là, les tests unitaires sont quand même assez limités là-dessus, parce que normalement, un test unitaire, il est vraiment tout seul. On teste une fonction ou un ensemble de fonctions et ils sont tout seuls dans leur coin. Bon, du coup, moi, là, ce que je viens de dire, c'est que c'est quand même un peu des tests d'intégration, quoi, qu'on doit faire.
Un peu.
Mais le problème des tests d'intégration, c'est que... alors, souvent, on va... Les tests d'intégration, traditionnellement, ça va plutôt être mis dans une équipe qui va se charger de les faire. Il faut monter l'infra qui va bien juste pour pouvoir faire les tests, la vider, entre guillemets, pour repartir sur un état correct au moment de faire les tests. Ça peut faire un peu long le test, et parfois, en fait, on a juste envie de vérifier que tous nos acteurs communiquent bien, que potentiellement nos requêtes à la DB fonctionnent, que ce soit pour insérer ou pour lire. Et on a envie d'avoir la réponse au plus quelques minutes quand on lance les tests, et pas avoir la réponse 3 heures plus tard, quoi. Parce que parfois on est en train de développer et on veut vérifier que tout communique bien entre eux, quoi. Alors il y a une solution parfois qui consiste à faire ce qu'on appelle des mocks. Par exemple, on va devoir parler à une API et on va remplacer la classe qui parle à l'API par une classe qui renvoie ce qu'aurait dû renvoyer l'API. Où on va, voilà, au moment d'envoyer un message, on va faire une classe qui va prendre le message d'un côté, qui va le mettre de l'autre, et qui va simuler le comportement de ce qu'on cherche. Enfin, de l'outil, ouais, c'est ça, de ce qu'on attend ou de l'outil qui nous manque, parce que c'est pas notre code à nous. Le problème, c'est que du coup, on se retrouve à recoder l'outil. Alors normalement, ça envoie que des... Souvent, les mocks, ça va envoyer des messages vraiment prédéfinis. Mais on va se retrouver dans nos tests à aller tester les mocks plutôt que notre code métier à nous. Et ça, c'est quand même pas forcément ouf. Voilà, il y a certains cas où les mocks, ça peut être intéressant, où c'est vraiment genre, on va discuter avec une API qui n'est pas du tout gérée par nous et qui n'est pas du tout... enfin là, qui est un truc complètement externe. Et on considère que... Et à ce moment-là, on va faire une fonction genre quand l'API fonctionne, quand l'API fonctionne pas, qui va renvoyer différents messages. Mais très souvent, là, ce dont on a besoin, c'est plus de, ça serait plutôt de lancer effectivement le Pulsar, de lancer le PostgreSQL, de lancer le Zookeeper, pour vérifier qu'on arrive bien à créer tout ce qu'il faut dedans ou à communiquer en l'utilisant, quoi. Et là, on m'a conseillé de regarder un truc qui s'appelle donc Test Containers. Et pour le coup, en vrai, je blaguais là-dessus au début, mais Test Containers, c'est le nom est pas trop mal trouvé. C'est des containers qui permettent de tester. Voilà. En gros, Test Container, c'est une lib qui est dispo pour pas mal de langages. J'ai vu Java, Scala, Node, Rust, Go et Python. Et il y en a peut-être d'autres. Mais sur le GitHub officiel des Test Containers, c'est tout ce que j'ai trouvé.
Originalement, c'est Java, JUnit et petit, ça a fait des petits très vite, ouais. Parce que c'est un super use case, quoi.
C'est ça. En fait, ça propose une API qui est assez simple, qui te permet de lancer tous tes trucs dont tu dépends dans des conteneurs. Par exemple, tu as besoin d'une PostgreSQL et d'un Pulsar. Et bah, en l'occurrence, il l'implémente. Et du coup, depuis ton JUnit ou depuis ton Scala test ou depuis voilà, tes tests Python ou Rust, tu vas dire je veux un container par exemple PostgreSQL en version 13 et le truc va te retourner un objet qui représente ton conteneur et qui va te fournir ensuite tes identifiants, ton port, etc. Par exemple, moi en Java, on fait du JDBC comme tous les gens. Enfin, dès que t'es sur la JVM, à un moment, tu fais du JDBC.
C'est pas vrai. Des fois, tu fais...
Non, mais je veux dire, quand tu veux communiquer avec une DBSQL, quoi. Et du coup, bah, le test container qui représente une PG bah, va te fournir directement une URL JDBC que tu as juste à aller caler dans ton Icar ICP ou quand tu crées ta connexion JDBC, etc. En back-end, donc c'est bien des conteneurs, c'est-à-dire que on a besoin d'un service Docker qui tourne en local. Voilà, en général, c'est pas le truc le plus compliqué à installer sur un Linux.
Il faut qu'il soit accessible en userland, enfin, user. C'est ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont encore accessibles qu'en route.
C'est vrai. Mais bon, ça peut être pas plus... Enfin, sur votre machine locale. Rendez-le accessible à votre user et limite...
Et surtout pas route.
Voilà, c'est ça. Si vous n'avez... Enfin, pour bosser, ça peut être bien d'être en user sur votre... même sur votre machine locale plutôt qu'en route, quoi. Parce qu'on sait jamais les libs que vous allez essayer de lancer en faisant vos tests. Du coup, voilà. En fait, ça utilise Docker et ça utilise les images officielles en général qui sont fournies. Alors c'est de ce que j'ai vu par exemple sur l'APG, c'est l'image PostgreSQL officielle, pareil pour Pulsar, pareil pour Zookeeper.
Ouais, ça dépend en fait, parce que j'avais fait le premier test container Cachebase et du coup ça dépend qui maintient et comment c'est maintenu
de ce que j'ai vu quand même, les gens qui maintiennent, enfin les images officiellement fournies par Test Container, enfin, quand j'ai les images fournies, c'est les libs qui représentent derrière des images Docker fournies par Test Containers. En général, ils essayent de prendre quand même les images officielles, comme ça, c'est pas eux non plus de les maintenir. Ils maintiennent juste la couche de compat entre les deux, quoi.
Et puis, ils wrapent tout un tas de fonctions cool en plus. Tu vois, c'est pas... Parce que tu peux démarrer le conteneur arbitraire que tu veux, et tout setup à la main, mais tu peux aussi utiliser donc les libs dont tu parlais qui arrivent avec plein de choses prédéfinies pour pouvoir l'utiliser plus facilement.
Ouais, par exemple, si tu as envie de redéfinir le nom de ta DB, enfin, toujours dans le cas de PostgreSQL, hein, mais si tu veux redéfinir le nom de ta base de données, de ton user, enfin, le password, etc., tu peux les fournir au moment où tu crées. Et là, pour le coup, tu es tout dans du Java ou, moi, dans mon cas, dans du Scala. Mais l'API n'est pas tellement différente entre les deux. Tu fournis le user, le password, etc. Et ça va créer avec les infos qui vont bien. Si tant est que le conteneur qui est derrière permet de le faire, mais la plupart des images un peu officielles vous permettent de quand même d'aller bidouiller pas mal. Enfin, c'est justement pas bidouiller, mais de définir un certain nombre de variables et d'identifiants, etc. dont vous pouvez avoir envie pour éviter de lancer justement une Docker PostgreSQL avec test comme user et password, quoi. Parce qu'apparemment, il y a des gens qui utilisent ces images aussi en prod. Pas forcément ce qu'on conseille, mais bon. Du coup, voilà, là de ce que j'ai vu, dans les trucs officiels proposés par la lib, il y a 17 moteurs de DB différents. Et dans les 17, il y a Presto et Trino. Voilà. Peut-être que je crois qu'il y a eu un épisode.
On en a parlé effectivement.
On en a parlé, ouais. Il y a 2-3 semaines, je crois.
Il y a eu un petit problème de gouvernance chez PrestoDB avec des transfuges chez Facebook. Souvenez de Facebook, et il y a eu une fondation et ils ne sont pas mis d'accord. Et bon, voilà, maintenant il y a PrestoDB et TrinoDB.
C'est ça. Et du coup, bah, si vous pouvez utiliser les deux qui sont pour l'instant quand même un peu le même. Non, ça a changé quand même depuis
aucune
le temps
idée.
Que ça a forqué. Mais bon, bref, en tout cas il y a les deux qui sont proposés out of the box par la lib, et puis ensuite il y a une dizaine d'autres services, du RabbitMQ, du Pulsar, du comment ça s'appelle, des trucs que moi je n'utilise jamais mais qui sont quand même qui peuvent être utilisés. Voilà, il y a du HashiCorp Vault par exemple. J'ai vraiment l'impression quand je regarde la liste quand même que c'est du... Il y a des gens qui ont fait une issue à un moment et un mainteneur qui était motivé qui s'en est occupé, quoi. Il n'y a pas forcément une cohérence là-dessus. De toute façon, l'idée, c'est de proposer plein de choses. Ouais. Et en fait, c'est assez simple parce que ça va fournir aussi des classes génériques. Et du coup, tu peux faire ton propre conteneur, bah, comme toi, hein, quand tu as fait le conteneur Codebase. Ouais. Mais alors, si tu veux aussi faire ton conteneur qui va lancer un service qui est développé par ta boîte, mais que tu n'as pas envie de lancer en local sur ta machine, ou enfin voilà, parce qu'il est un peu plus complexe, voire même de faire du Docker Compose si tu veux lancer un gros truc derrière. C'est possible. Par exemple, nous, on a besoin d'un Warp 10 dans un projet. Donc, Warp 10, c'est une Time Series DB développée par Senix. C'est comme ça que ça se dit.
Ça se dit Sense.
Sense, effectivement. À chaque fois, je me plante.
Ça s'écrit Senex, effectivement, mais bon, je...
C'est, oui. Voilà.
Sense.
Bref, c'est des Français quand même. et du coup, nous, on l'utilise extensivement quand même, Warp 10 chez Clever. Et il y a Arnaud qui a fait l'autre jour un test container et ça lui a pris très, très peu de temps, quoi. Je crois qu'il a fait une paire pour essayer de le mettre dans les trucs officiels, histoire d'avoir moins à s'en occuper et que ce soit plus facile d'accès. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on a quand même un test container assez facile à faire, quoi. Et puis voilà, et l'avantage, c'est que, enfin, de ce truc-là, pour finir, c'est qu'une fois que tes tests sont passés, le test container va se charger de tout nettoyer, de supprimer tous tes... même si les tests ont fail d'ailleurs, ça va se charger de tout supprimer et de...
Il y a des options et des
stratégies. D'arrêter tous les trucs que tu avais lancés. Quoi. Ouais. Et comme ça, quand tu as fini tes tests, il n'y a plus rien qui traîne et la prochaine fois que tu lances, ça relance tout, effectivement. Donc ça peut rallonger un peu certains tests. Mais bon, comme ce sont des tests qui, sans utiliser ce genre de choses, vous demandent à initialiser un certain nombre de bases de données et trucs comme ça, et différents outils, c'est pas plus mal non plus de... Enfin, en fait, ça fait gagner du temps, quoi.
Yes. Puis on peut aller vachement plus loin que ça. Vous pouvez, enfin, comme tu disais, on peut utiliser Docker Compose, on peut même précharger, on peut changer les stratégies. Déjà, on peut dire si le test fail, je veux garder le conteneur. On peut, je crois, faire des choses comme ça. T'as des conteneurs qui sont dédiés aux tests web qui te permettent d'enregistrer aussi tes tests, donc tu peux récupérer des vidéos de tes tests. Enfin, t'as pas le truc assez rigolo. Moi, je sais que ça m'avait bien amusé à l'époque que j'avais un test avec un backspring, un front Angular, un Couchbase derrière, un autre conteneur pour faire les tests, un conteneur pour enregistrer les tests et tout. Non, c'était pas mal. Et tu peux même précharger tes conteneurs avec un set de data si tu veux pour aller plus loin dans le test d'intégration. C'est quand même assez cool.
Ouais. Mais tu peux, voilà. Moi, je l'utilise par exemple aussi pour vérifier que toutes mes migrations de DB fonctionnent. J'ai tous mes scripts de migration, je les lance et comme ça, je m'assure que mes scripts de migration passent tous, quoi. Avant de le tenter sur la DB, ça évite de remonter à chaque fois une DB en local, etc. Enfin, elle est montée, mais c'est fait automatiquement, quoi. Ouais. En vrai, moi, je suis plutôt content de ce truc-là.
Moi, je pense que c'est un super use case de Docker et que c'est assez parfait pour ce truc-là. Moi, j'avais commencé chez Couchbase et c'est vraiment un truc qui m'a bien plu.
Ouais. Et par exemple, voilà, ça m'a permis de tester. Enfin, déjà, ça permet de tester que ton code fonctionne sans avoir à le mettre en pré-prod. Enfin, ça t'économise un déploiement parfois de pré-prod ou de dev. Et ensuite, du clic-clic dans une interface, etc., pour essayer de déclencher les trucs qui vont bien, les appels qui vont bien. Et par exemple, je me suis rendu compte que j'ai tenté de mettre le test container en Pulsar 2.7.1, et en fait, il y a un changement dans l'API plus ou moins de Pulsar en 2.7.1 qui casse les tests et qui ferait casser l'API. Et du coup, on sait que pour le moment, notre cluster Pulsar qu'on utilise en prod pour ce projet-là, on va pas le passer en 2.7.1. Et du coup, ça peut... Non, mais et finalement, c'était un use case auquel je pensais pas, mais je m'en suis rendu compte justement en lançant des tests que finalement tu peux tenter de passer à la version supérieure d'une DB et de vérifier si tes tests passent toujours par exemple avec la nouvelle version de la DB ou s'il y a des features qui ont cassé des choses, quoi.
Yep,
et ça c'est pas mal.
J'avais vu que le créateur s'appelle Richard North et il bossait chez Skyscanner et j'ai vu passer sur Twitter qu'il partait de Skyscanner la semaine dernière, mais je sais toujours pas ce qu'il va faire, s'il va continuer dans Test Container ou si,
J'aimerais dire il y a de la place chez Basecamp. Je sais pas s'il a envie d'y aller.
Ouais, il est pas obligé, hein.
Ah non, pas du tout.
Ouais, ok, eh ben merci Julien Durillon.
Voilà. Eh ben, je t'en prie, Laurent.
Pour ce 43e épisode, épisode numéro 42. Et on vous dit, et on te dit à la prochaine, à très vite.
À la prochaine. Salut. Ciao.
Et donc, c'est tout pour cette semaine. On espère que cet épisode un peu particulier vous a plu. Je vous rappelle qu'on est toujours preneur de vos retours, de vos feedbacks. Ça fait à peine un an. Ça fera un an à la fin du mois qu'on fait le podcast Message à caractère informatique. On est toujours preneur de vos retours pour faire quelque chose qui corresponde le plus possible à vos attentes. Et pour terminer, je ne vais pas vous laisser sur un morceau musical, mais sur un message de service qui rappelle un peu l'importance d'écrire des specs et de bien définir les problèmes en informatique. Alors je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.
Must know it.
All right. The answer to the ultimate question of life, the universe, and everything is
Forty-two.
Yes, I thought it over quite thoroughly. It's 42. It would have been simpler, of course, to have known what the actual question was.